Alors, ce matin, nous allons parler pendant quelques minutes de quelque chose auquel je réfléchissais beaucoup dans la semaine, surtout en entendant un peu tout ce qui se passe dans le monde. Je sais que, bon, on regarde, on écoute les actualités et plus que à n'importe quelle autre époque, aujourd'hui, nous pouvons être au courant de ce qui se passe sur la Terre. C'est quand même assez impressionnant, n'est-ce pas? De l'est à l'ouest, du nord au sud, ben vous voulez une information sur ce qui se passe dans le monde à n'importe quel moment, ben vous pouvez l'avoir, que ce soit à travers la télé, l'internet, d'autres moyens. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe, que ce soit des inondations où les gens perdent leur vie, que ce soit toute l'instabilité au Moyen-Orient, je ne sais pas si vous avez entendu, je crois que c'était hier encore en Turquie, et ben pendant des démonstrations, ben des explosions, des gens morts, combien de fois dans la semaine on entend, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit même en Afrique, l'instabilité, ce qu'on appelle le terrorisme. On parle du réchauffement climatique, on parle même dans notre propre pays de tous les problèmes qu'il y a, problèmes sociaux, problèmes fiscaux. Et on regarde ce monde et il y a de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Et le monde s'inquiète. Le monde se dit, oula, on court la destruction, il faut faire quelque chose. Le monde essaye de mettre en place des choses, essaye de trouver des solutions, mais qui en fait ne sont pas des solutions durables. Et une chose m'a frappé cette semaine, en lisant des versets, je me suis rendu compte qu'il y a une expression qui revient à plusieurs reprises, et je dirais même à bien des reprises dans le Nouveau Testament, et cette expression c'est « que la paix soit avec vous », « que la paix vous soit donnée ». Et là, en l'occurrence, la plupart du temps, c'est Paul qui le dit, que la paix est sous-entendu la paix de Dieu, n'est-ce pas? Et juste rapidement, permettez-moi de citer tout simplement les références de ces versets. Romains chapitre 1, verset 7. Et ce ne sera pas la peine de trouver tous ces versets, mais Romains chapitre 1, verset 7. La première épître aux Corinthiens chapitre 1, verset 3. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 1, verset 2. Galates chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Philippiens chapitre 1, verset 2. Colossiens chapitre 1, verset 2. 1. Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 et 2 pour les deux. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 2. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 2. Tite, chapitre 1, verset 4. Philémon, chapitre 1, verset 3. La première épître de Pierre, chapitre 1, verset 2. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 2 aussi. Et la deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Tous ces versets ont le point en commun qui est cette expression « que la grâce vous soit donnée, que la grâce... » vous soit multiplié aussi, on va trouver cette expression. Et en fait, il serait même plus facile de citer tous les livres où cette expression ne se trouve pas que tous les livres où elle se trouve. Et on voit notamment Paul, mais aussi Pierre et aussi Jean, étaient frappés, pris, émus, contrôlés par cette idée de la paix de Dieu. La paix de Dieu qui est là, dans l'épître aux Philippiens, Paul va dire que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et nous allons revenir dans un passage, Romains chapitre 5, je vous invite à trouver celui-là. Romains chapitre 5, parce que dans notre monde d'instabilité, dans notre monde de crainte, dans notre monde d'inquiétude, les chrétiens doivent se distinguer par la paix de Dieu qui se manifeste dans leur vie. Souvenons-nous de l'évangile de Jean, chapitre 14. Qu'est-ce que Jésus dit? Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas. Et dans Romains, chapitre 5, Paul est en train de faire son grand enseignement sur les grandes doctrines, il est en train d'enseigner ces chrétiens de Rome. Et au chapitre 4, il venait de terminer tout un discours sur la vie d'Abraham et comment Abraham a été justifié par la foi. Ce n'était pas ses œuvres, mais c'est sa foi qui lui a été imputée à justice. et chapitre 4, verset 23, tout simplement pour nous donner le contexte. Mais ce n'est pas à cause de lui seul, donc d'Abraham, qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et là, verset 1 de chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces instants que nous passons dans ta parole, que tu éclaires notre intelligence, que ce soit toi qui nous enseignes, Seigneur, que tu transformes notre cœur par cette parole puissante, que nous ne restions pas indifférents et que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans notre vie. Entendons, nous prions. Amen. Paul ici, dans ce chapitre 5, nous montre que si nous sommes chrétiens, et il sous-entend cela, il suppose que ceux auxquels il écrit sont des chrétiens, étant donc justifiés par la foi. Paul avait expliqué que c'est par la foi qu'on est justifié. Ce ne sont pas les œuvres. Dans son épître aux Éphésiens, il va répéter la même chose. C'est le témoignage unique du Nouveau Testament. Le salut vient par la foi et par la foi en Jésus-Christ. Et Paul dit, puisque nous sommes dans ce cas de figure, et juste là, il faut s'arrêter pour se poser cette question capitale, la plus grande question, suis-je justifié par la foi? Je prie que oui. Moi, je peux dire que je le suis. Un jour, j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ pour me sauver. Et selon sa fidélité et selon sa parole, il a fait. Mais je ne peux pas dire ça pour les autres. Les autres doivent dire cela pour eux-mêmes. Et Paul ici est convaincu que ceux auxquels il écrit sont justifiés par la foi, c'est-à-dire sont chrétiens, sont nés de nouveau. Et de se poser sérieusement cette question, suis-je de ce nombre? Suis-je quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel? Parce que sinon, tous les bienfaits et tout l'enseignement de ce chapitre n'est pas pour vous. Tout cet enseignement et toutes les vérités contenues dans ces versets sont pour ceux qui sont sauvés. Et si nous ne sommes pas sauvés, ben, ceci ne s'applique pas à nous. Donc Paul commence avec ce principe capital. Oui, la justification vient par la foi. Justification parce que nous avons péché contre Dieu. Nous avons enfreint les règles, la loi de Dieu. C'est envers Dieu que nous avons péché et c'est avec lui que nous devons être réconciliés. Mais Paul continue dans ce verset 1 en disant, puisque ceux auxquels j'écris, dit Paul, sont justifiés par la foi, quelle est la conséquence de cela? Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelle vérité glorieuse! Nous sommes en paix avec Dieu, alors que avant notre conversion, nous le savons, nous étions ses ennemis. Nous étions loin de lui. Encore une fois, Éphésiens chapitre 2, Paul explique bien aux Éphésiens, oui, nous étions éloignés, nous étions comme les autres, nous étions ennemis de Dieu, rebelles, suivant notre propre voie. Et dans Jean chapitre 3, Jésus va expliquer par Jean que tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, la colère de Dieu est déjà sur eux. Avec une sainte et une parfaite colère, Dieu, oui, est en colère contre les inconvertis. Il les aime et il veut les voir sauvés. Mais tant qu'ils ne se tournent pas vers lui par la foi en Jésus-Christ, sa colère demeure et déjà là sur eux. Et c'était notre cas avant notre conversion. Mais si nous avons accepté Jésus-Christ par la foi, si nous sommes justifiés tel que Paul le présente ici, nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et cette vérité seule doit me stimuler à louer Dieu, à crier haut et fort, gloire à Dieu. J'étais sous la condamnation, j'étais coupable, je méritais entièrement la colère de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis sauvé. Vous savez, en ce moment, aux États-Unis, il y a un grand débat sur la peine de mort. Ici, en France, on ne pratique pas la peine de mort, mais aux États-Unis, dans pas mal d'États, ils pratiquent encore la peine de mort. Il y a un grand débat, et il y a des personnes qui attendent la mort en ce moment, dans plusieurs États. Là, récemment, de nouveau, on a mis quelqu'un à mort pour plusieurs meurtres. Et ces personnes attendent la mort. Ils savent que tel ou tel jour, telle ou telle heure, ils vont être mis à mort. Et en attendant cela, ils essaient par tous les moyens d'y échapper. Et un des moyens, c'est d'être pardonné par le président. Le président des États-Unis a ce pouvoir de dire, même quelqu'un qui est destiné à la mort, à la peine capitale, comme on le dit, le président peut le pardonner, peut le gracier, et cette personne peut être délivrée. Et imaginez-vous, vous êtes là, en prison, et le juge a donné la sentence, le jugement, voilà, tel ou tel jour, telle ou telle heure, pour tel ou tel crime, vous serez mis à mort. Et là, vous recevez une lettre, vous recevez un coup de fil, que vous êtes gracié. Que le président a entendu parler de votre cas, et puis, il a fait grâce, il a pardonné. Imaginez le soulagement. On peut de nouveau souffler. Et nous étions sous la peine de la mort, pas simplement la mort physique, mais la mort spirituelle, séparation avec Dieu. Et si, par Jésus-Christ, nous avons accepté le salut, eh ben, là nous pouvons souffler. Là, nous sommes comme cette personne délivrée de la peine de mort. Et puis, Paul, dans les versets qui suivent, va continuer son argumentation. Et Paul était quelqu'un de très logique. Et il va présenter un ensemble d'arguments et va essayer de stimuler, encourager les chrétiens de Rome et par extension, nous aussi aujourd'hui. Alors, regardons son raisonnement, son argumentation, ses vérités, pour nous aussi être stimulés par cette idée que si nous sommes sauvés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Qu'est-ce que cela produit? Alors, Paul termine le verset 1 par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui? À Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu part la foi, accès à cette grâce. Donc nous voyons que c'est par Jésus-Christ que nous accédons même à cette grâce. Cela ne vient pas de nous. Jésus nous attire et lorsque nous acceptons par la foi son salut, eh ben, nous accédons à cette grâce. Et dans laquelle, donc dans cette grâce, nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et Paul, ici, dans un seul verset, résume toute la vie du chrétien. Il parle de l'avant, c'est-à-dire avant d'être converti. Il parle que maintenant nous sommes justifiés et nous demeurons fermes. Et puis, il parle du futur. Il y a cette espérance de la gloire de Dieu. Le dimanche matin, en première partie, nous parlons de la mort, ce qui arrive aux gens qui meurent, les inconvertis, tout comme les personnes qui sont sauvées. Et justement, les personnes qui sont sauvées ont cette espérance. Un jour, ils seront avec Dieu. Et dans les semaines à venir, on va en parler. Si vous aimeriez venir entendre cela, discuter, ben venez, 9h45, c'est quelque chose de formidable de pouvoir parler de notre espérance. Mais Paul ici dit, ben, nous demeurons fermes et nous attendons, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et nous pouvons regarder le monde autour de nous et voir que rien ne va, malgré tout ce que l'homme fait, malgré les meilleures solutions que l'homme peut trouver avec toute son intelligence, avec tous ses avancées, ce monde ne s'améliore pas vraiment. On fait de petits progrès, on aide dans certains domaines, mais au total, ce monde ne s'améliore pas. Et le chrétien sait qu'un jour, Dieu va tout renouveler. Et le chrétien a cette espérance de passer l'éternité avec Dieu dans la félicité éternelle, auprès de Dieu, et le chrétien attend cela. Et ça doit rééquilibrer notre perspective. La paix avec Dieu, c'est-à-dire notre salut, doit rééquilibrer notre optique sur ce monde. Et alors que les gens autour de nous disent « rien ne va, rien ne marche, on ne trouve pas de solution, tout court à sa perte », oui, dans un sens c'est vrai, mais en même temps, en tant que chrétiens, nous devrions annoncer « mais Dieu a autre chose, Dieu a quelque chose pour nous qu'il veut partager avec tous et qu'il partage avec tous ceux qu'il reçoit ». Et puis, verset 3, Paul va continuer son argumentation. Il dit, si cela n'était pas assez, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Et c'est là où on se dit, oula, Paul, jusque-là, ça allait bien. Tu nous parles du salut en Jésus-Christ, cette grande transformation, la paix avec Dieu, l'espérance à venir, la gloire de Dieu. Oui, on veut entendre parler de cela. Gloire à Dieu. Amen. Et Paul dit, nous nous glorifions des afflictions. Ah non, Paul, doucement là, pas trop vite. Peut-être on met pas trop l'accent là-dessus. Et pourtant, Paul dit, nous nous glorifions même des afflictions. Et les chrétiens de Rome connaissaient les afflictions. Quelques années plus tard, c'est à Rome où les plus cruelles des persécutions allaient avoir lieu. Les chrétiens brûlés vifs, les chrétiens torturés, les chrétiens jetés aux animaux sauvages. Et Paul dit, nous nous glorifions. C'est pas simplement qu'on les supporte en gémissant, mais il dit, nous nous glorifions. Et Paul anticipe la question, mais comment est-ce possible? Non, Paul, mais tu n'es pas bien. Là, Paul, peut-être, c'est vrai, tout ton enseignement, tout ton savoir... t'es un peu monté à la tête, là, c'est pas bien. Il anticipe des objections, il anticipe des questions en disant, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et puis, il va continuer dans les versets qui suivent, pour montrer toute une progression. Et il dit, il y a des afflictions, c'est une réalité de la vie. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus en paix avec Dieu. Et ça ne veut pas dire que nous ne pouvons plus être en paix avec ceux qui nous entourent. Non, ça fait partie de notre vie chrétienne. L'affliction est une réalité de la vie chrétienne. Et essayer de la fuir ou de l'enlever à tout prix de notre vie ne correspond pas à l'enseignement du Nouveau Testament. Il ne s'agit pas non plus de courir après l'affliction en disant « je veux cela, je suis plus spirituel parce que je suis affligé, parce que je subis toutes ces choses. » Non, non, c'est pas ça. Mais Dieu permet l'affliction dans la vie du chrétien pour produire la persévérance. Et bien sûr, le modèle de cela peut être le sport. On fait des exercices, on se fait du mal. Là, apparemment, hier, mon père, il a fait une course de plusieurs kilomètres. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais il a fait cela. Et depuis des semaines, même depuis des mois, il se prépare à cela. Mais il ne s'est pas préparé à cela en étant assis dans son fauteuil devant la télé, en regardant les autres courir. Non. Non, lui, il est sorti et il a fait des courses lui-même. Il est allé courir, il est allé s'entraîner. Dans un sens, il s'est fait du mal à ses muscles. Et comme cela, il peut persévérer. Notre frère Patrick comprend très bien ce principe, que ce soit avec la course, que ce soit avec le vélo. Tous ceux qui s'attachent à faire quelque chose savent que par moment, il faut passer par des moments difficiles. Et que si on n'est pas prêt à passer par ces moments difficiles, ben, on n'atteindra jamais le but. Et Paul explique ici l'affliction. Oui, même la persécution, ces moments difficiles, l'épreuve, produisent la persévérance. Et la persévérance doit être une marque du chrétien. Et puis verset 4, il continue en disant, ben, cette persévérance que l'affliction produit, eh ben, la persévérance va produire elle-même la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. Parfois, on se demande, mais comment être victorieux dans l'épreuve? Et Paul ici explique au moins un moyen de le faire. C'est en persévérant. Souvent, nous pensons que la victoire dans l'épreuve veut dire qu'on s'en sort, qu'on soit délivré de l'épreuve. Mais Dieu ne nous délivre pas toujours de l'épreuve. On aimerait qu'il le fasse. Mais il ne le fait pas toujours, parce qu'il sait que cette épreuve doit produire quelque chose en nous. Et pour être victorieux, pour s'assurer qu'on est victorieux, eh ben, il faut la persévérance. Il faut continuer. Nous pouvons aussi employer le mot constance. Aller jusqu'au bout. La persévérance. Et cette persévérance, oui, va produire la victoire dans l'épreuve. Et puis, cette victoire, l'espérance, à la fin de verset 4. L'espérance. Parce que je persévère aujourd'hui, et parce que, à travers cela, je suis victorieux par la grâce de Dieu aujourd'hui, ben, j'ai l'espérance que Dieu continuera de faire cela jusque dans l'éternité. Et Paul dit à ces chrétiens de Rome, qui avaient besoin d'enseignement, qui trébuchaient un peu, qui allaient de côté d'autres, qui n'étaient pas très affermis, il leur dit, eh ben, le but, c'est cette espérance que Dieu veut produire en nous. Si Dieu nous aide par sa grâce, parce que nous avons la paix avec lui, de persévérer et d'avoir cette victoire aujourd'hui, ben, ça veut dire que ben, on peut être sûr et certain qu'il continuera de le faire demain et après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, jusqu'à son retour. Cela produit l'espérance. Et puis, verset 5, c'est de nouveau comme si Paul anticipe des questions, des objections. Il dit, or, l'espérance ne trompe point. L'espérance des hommes peut tromper. Des parents, aussi bien intentionnés que soient-ils, peuvent dire à leurs enfants, voilà, on va faire ceci ou cela, et pour diverses raisons, ne peuvent pas le faire. On va aller dans tel ou tel endroit. Ah, mince, il fait pas beau. Ah, mince, on n'a pas les finances pour telle ou telle raison. Mais l'espérance, surtout de Dieu, ne trompe point. Pourquoi? Verset 5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et là, relevez-le. Au début de ce passage, Paul a parlé de Dieu, le Père, qui a ressuscité Jésus-Christ. Il a parlé de Jésus-Christ à travers lequel nous avons la paix avec Dieu, et maintenant nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes au bénéfice des trois personnes de la Trinité. Les trois travaillent pour nous, les trois travaillent en nous. Et l'amour de Dieu, l'amour manifesté en Jésus-Christ, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi? Non pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu fait grâce, parce que nous sommes en paix avec lui. Et si Dieu est en nous, nous pouvons dire, comme la parole, que peuvent me faire les hommes? Dieu est pour moi. Il peut avoir n'importe quoi qui se passe sur la terre. Il peut avoir même une guerre nucléaire qui détruise toute la population. Je suis convaincu que Dieu ne permettrait pas cela, mais même s'il le faisait. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous pouvons être en paix en nous. Parce que le Saint-Esprit, parce que Dieu lui-même est en nous. Puis verset 6, nous commençons à avoir des versets que nous connaissons si bien. Car, sur la base de tout ce qui vient, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et cela doit nous bouleverser. Et Paul veut montrer toute la force de ce qu'il dit. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et il explique, ça c'est quelque chose de radical. C'est inattendu, personne ne ferait cela. Verset 7, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un qui fait du bien. Quelqu'un qui se donne pour les autres. Quelqu'un qui est un exemple. Bah lui, peut-être, c'est même pas sûr, mais peut-être, on donnerait sa vie pour lui. Peut-être on ferait des sacrifices pour cette personne. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. C'est possible, c'est pas sûr, mais peut-être. Mais un impie? Notre ennemi? Non, jamais. Et verset 8, Dieu prouve son amour. Alors que nous aurions du mal même à nous sacrifier pour un juste. Alors combien moins pour quelqu'un qui est notre ennemi? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, les plus vils aux yeux de Dieu, alors que nous étions ses créatures, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est à travers cela que nous avons la paix avec Dieu. Et si nous avons la paix avec Dieu, et si la paix de Dieu est en nous, pourquoi devrions-nous être déstabilisés, bouleversés, inquiétés par ce qui se passe dans le monde? Pourquoi sommes-nous inquiétés par ce que les gens nous font? Pourquoi sommes-nous préoccupés avec les choses de ce monde plus qu'avec les choses de Dieu? Pourquoi est-ce que nous nous focalisons plus sur les choses de ce monde et sur notre vie sur cette terre que sur les choses de Dieu et sur l'avenir? Si telle est notre position, et je mets cela au conditionnel, si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire nous avons placé notre vie, notre foi en Jésus-Christ pour la vie éternelle, comme Paul l'explique ici, si tel est notre cas, n'est-il pas la chose la plus logique d'être tellement, dans ce sens, obsédé, si je peux employer ce terme, mais tellement pris par les choses de Dieu et par l'avenir pour travailler pour lui aujourd'hui? Nous ne ferions même pas un millième de ce que Dieu a fait pour nous. Et il a fait par amour, il nous a réconciliés avec lui. Et peu importe ce qui se passe dans ce monde, parce que Jésus-Christ est mort pour nous alors que nous étions ses ennemis, Paul continue son argumentation au verset 9, regardez, à plus forte raison donc. Donc, si Dieu a fait ça, ne croyez-vous pas qu'il va faire aussi ce que Paul explique au verset 9? Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et il revient de nouveau à cette idée de paix. La réconciliation, peut-il y avoir de la réconciliation sans la paix? Non. Il y a réconciliation lorsqu'il y a la paix. Et Paul, dans son argumentation ici, veut stimuler et encourager les chrétiens de Rome face à tout ce qu'ils subissaient, de les aider à se rappeler, nous appartenons à Dieu. Et si, lorsque nous étions éloignés de Dieu, les plus répréhensibles aux yeux de Dieu, Dieu était prêt à mourir pour nous, maintenant que nous sommes ses enfants, va-t-il nous délaisser? Va-t-il nous permettre de passer par des choses que nous ne pouvons pas supporter? Va-t-il nous abandonner? Et Paul laisse cela sans réponse dans ces versets parce que la réponse est tellement évidente. Bien sûr que non. S'il l'a fait lorsque nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, il ne peut que faire pour nous ce qui est bien. Il ne peut que nous garder. Et Paul dit ici, il va nous garder de la colère. Oui, la colère à venir, mais la colère aujourd'hui, Dieu nous garde. Et à ce moment-là, y a-t-il quoi que ce soit dans ce monde? Y a-t-il quoi que ce soit dans la pensée même de l'homme qui devrait nous déstabiliser? Et la réponse face à ces versets est non. Alors pourquoi le sommes-nous? Parce que si nous sommes honnêtes, cela nous arrive tous à nous inquiéter. Ça nous arrive tous à sortir de cette paix et d'être alarmés, d'être déstabilisés. Pourquoi? Parce que nous oublions la réalité, nous avons la paix avec Dieu. Et je suis convaincu que parce que les chrétiens ont tendance à oublier cela, c'est pour cela que Paul, poussé par Dieu, à tant de reprises, a dit aux chrétiens, eh ben, que cette paix vous soit donnée. Mais on peut dire, mais j'ai déjà la paix avec Dieu. Je suis sauvé. Oui, c'est vrai, mais est-ce que cette paix agit dans ma vie? Est-ce que cette paix me contrôle? Est-ce que cette paix me garde? Est-ce que je demeure dans cette paix? Si je suis honnête, je ne le fais pas toujours. Je me laisse déstabiliser. Je tombe dans l'inquiétude, alors que Philippiens chapitre 1 dit expressément « Ne vous inquiétez de rien ». Et dans ces versets en Romains, Paul dit à ses chrétiens de Rome il y a presque 2000 ans « Vous êtes, et j'espère que nous pouvons tous dire « Nous sommes en paix avec Dieu ». Regardez tout ce que Dieu a fait pour nous. Et il arrêterait d'agir aujourd'hui? Il agirait différemment dans ma vie? Non. Non. Dieu continue d'agir. Et par Jésus-Christ, nous avons obtenu, comme nous voyons à la fin de verset 11, la réconciliation avec Dieu. Il y a la paix. Et c'est avec cette paix que nous pouvons avancer. C'est cette paix que nous devons proclamer autour de nous. C'est cette paix que nous devons manifester alors que tout ce monde vole en éclats, alors que les inconvertis qui ne connaissent pas Dieu sont dans l'inquiétude. Pour eux, c'est normal. Mais pour un chrétien, c'est pas normal. Et que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des menaces des hommes, que ce soit n'importe quelle autre chose, de nous souvenir que nous sommes en paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et de se poser la question, eh ben, aujourd'hui, est-ce que je laisse cette paix agir en moi? Elle est là. La réalité de cette paix n'est pas la question. La question, c'est est-ce que je la laisse agir en moi? Et est-ce que je vais prendre la décision d'agir en conséquence? Ou est-ce que je vais agir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que je vais agir comme ceux qui n'ont pas bénéficié de cette réconciliation? Quelle injustice vis-à-vis de Dieu. Dieu a tant fait pour nous. Dieu a tout fait. Et nous agirons comme ça? Non. Paul, dirigé par Dieu, encourage les chrétiens de Rome. Et nous aussi, laissons agir la paix de Dieu dans notre cœur. Peu importe les circonstances, peu importe ce par quoi nous passons, la paix de Dieu est là. Laissons-la agir, laissons-la se manifester autour de nous. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons pour ta parole qui nous explique ces vérités et nous reconnaissons nos manquements, notre éloignement, nous reconnaissons notre inquiétude, Seigneur, pardonne-nous cela. Aide-nous à prendre la bonne décision, la décision la plus logique, de laisser ta paix agir en nous, qu'elle soit manifeste, Seigneur, parce qu'elle vient de toi. Elle ne vient pas de nous. Et Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Notre désir n'est pas suffisant. Nous avons besoin de ta grâce pour laisser cette paix agir et être vue. Seigneur, secours-nous, viens en aide à notre faiblesse et que les gens autour de nous puissent voir de manière claire et certaine que ta paix agit en nous, que nous puissions te glorifier, t'exalter, nous distinguer à cause de cela. Et Seigneur, que tu sois toujours élevé, exalté dans notre vie, parce que nous t'obéissons, parce que nous faisons le bon choix de te suivre. En ton nom, nous prions. Amen.